Pour différentes raisons, une société peut être effectivement dirigée par un autre que le dirigeant nommé en bonne et due forme, c'est-à-dire le dirigeant de droit. Il peut s'agir du parent du dirigeant de droit dans une société familiale, d'un associé majoritaire, d'un ancien dirigeant, d'une société mère, etc. Un tel dirigeant, à qui la direction de la société n'a pas été régulièrement confiée, est alors qualifié de dirigeant de fait. La notion de dirigeant de fait ne fait l'objet d'aucune définition légale. Il est donc revenu à la jurisprudence, abondante en la matière, de cerner les contours de cette notion. Pour être qualifié de dirigeant de fait, la personne concernée doit exercer en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction de la société. Cette situation est susceptible de recouvrir des réalités très diverses. Peuvent ainsi être qualifiés de dirigeant de fait une personne physique ou une personne morale, seule ou en groupe, une banque, une commune ou encore un contractant de la société. S'agissant du contractant de la société, la jurisprudence a apporté quelques précisions. Le seul exercice par le concédant des prérogatives dont il dispose au titre du contrat de concession est insuffisant pour caractériser la qualité de dirigeant de fait. De même, un simple rapport de subordination économique ne saurait suffire. La Cour de cassation a récemment rendu un arrêt sur ce point, à propos d'un constructeur automobile à l'encontre duquel la qualité de dirigeant de fait était invoquée. À l'instar des juges du fond, la haute juridiction a estimé que ne caractérise pas une situation de direction de fait les agissements n'ayant consisté qu'en des contrôles, recommandations, demandes ou exigences, ne révélant qu'un rapport de subordination économique du fournisseur vis-à-vis de son client, dans le cadre de conventions où le constructeur prenait, en cette qualité et dans son propre intérêt, des décisions ayant des conséquences pour le fournisseur. Enfin, il importe peu que le dirigeant de fait soit salarié ou mandataire de la société. S'agissant de l'existence d'un mandat social, les dirigeants doivent prendre garde à l'arrivée du terme de leur fonction lorsqu'ils ont été nommés pour une durée déterminée. En effet, la Cour de cassation a récemment jugé, à propos d'un président de société par action simplifiée, qu'il ne saurait y avoir de reconduction tacite du dirigeant dans ses fonctions, la survenance du terme entraînant la cessation de plein droit de ce mandat. Ainsi, à l'arrivée du terme des fonctions auxquelles il a été nommé, et même en l'absence d'opposition de la part des associés, le dirigeant, anciennement de droit, qui continue de diriger la société, devient alors dirigeant de fait à défaut de renouvellement express de son mandat. Concrètement, les juges du fond se fondent sur un faisceau d'indices et notamment s'attachent à déterminer si le dirigeant de fait exerce ou non le pouvoir de recrutement, d'encadrement et de sanction à l'égard du personnel de la société, s'il détermine la politique tarifaire de la société ou sa politique commerciale, s'il négocie lui-même avec les fournisseurs de la société, s'il entretient des relations avec la clientèle et les partenaires commerciaux, s'il signe lui-même les contrats conclus par la société, s'il est titulaire de la signature sur le compte bancaire de la société, s'il est perçu par les tiers comme un véritable représentant légal de l'entreprise, ou bien s'il se présente comme le dirigeant de l'entreprise. Enfin, quelles sont les conséquences attachées à la qualité de dirigeant de fait ? En l'absence de mandat social valable, la direction de fait d'une société constitue une activité illicite, mais pas forcément une infraction pénale. Une telle situation ne crée donc aucun droit au profit du dirigeant de fait, qui ne bénéficie pas des dispositions légales et statutaires applicables aux seuls dirigeants de droit. À titre d'exemple, les statuts d'une société par action simplifiée, prévoyant que toute révocation du président sans motif grave ouvre droit à une indemnisation à son profit, ne peut être invoquée par un dirigeant de fait. En revanche, le dirigeant de fait pourrait prétendre au versement de dommages et intérêts en cas de révocation abusive, notamment lorsque la dite révocation est intervenue dans des conditions vexatoires. En outre, la qualité de dirigeant de fait expose ce dernier à voir sa responsabilité engagée à différents titres. Responsabilité fiscale, responsabilité civile, responsabilité pénale, mais également en cas de procédure collective, responsabilité pour insuffisance d'actifs et prononcée d'une faillite personnelle et d'une interdiction de gérer. En conclusion, il appartient à tout dirigeant de s'assurer des conditions dans lesquelles il se maintient dans ses fonctions.